Radio Okapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondé.
L'IGF dresse un rapport accablant contre 5 unités de gestion du ministère de la Santé. Près de 420 millions de dollars concernés par cette mégestion au sein du programme élargi de vaccination, du projet de développement du système de la santé, de la cellule d'appui et de gestion financière, du programme national de santé de la reproduction ainsi que du fonds de développement de services de santé. Réaction de la Synco et de l'ECC à la feuille de route de la CENI. Les deux structures encouragent le président de la République, le Parlement et le gouvernement à s'acquitter de leurs obligations afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de mettre en œuvre son agenda électoral. Nous recevons ce matin le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République dans les négociations avec la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé mardi 8 février dernier l'admission de la République démocratique du Congo dans ce bloc régional. Bonjour à tous. L'inspection générale des finances, IGF, a dressé un rapport accablant contre 5 unités de gestion du ministère de la Santé après un contrôle dans ses services. Près de 420 millions de dollars sont concernés par cette mégestion au sein du programme élargi des vaccinations, du projet de développement du système de la santé, de la cellule d'appui et des gestions financières, du programme national de santé de la reproduction ainsi que du fonds de développement des services de santé. Dans ce document adressé au chef de l'État et au Premier ministre et parvenu le week-end à Radio Okapi, l'IGF relève plusieurs faits saillants qui dénotent des anomalies de gestion sur les finances, l'administration, la logistique et les ressources humaines sur des périodes allant de 2016 à 2021. Les détails avec vous, Noël Alouzitou.
Accablant de l'IGF dénonce plusieurs anomalies dans la gestion financière du PEV, dont l'absence de justificatif et d'utilisation des fonds d'un montant de plus de 400 millions de dollars américains retirés de 2016 à 2021 de la prise en charge des prestataires de lutte contre le COVID-19 ainsi que ceux reçus du gouvernement et des bailleurs entre 2018 et 2020. L'IGF souligne aussi des dépenses sans justificatif effectuées par le projet de développement du système de la santé de l'ordre de plus de 7 millions de dollars américains pour le financement IDEA en 2021. Autre reproche fait au PEV, la mauvaise gestion des ressources humaines, des médicaments, des vaccins et les matériels pour leur conservation, ainsi que la mauvaise gestion des biens et immobilisations. Allusion faite notamment à l'utilisation d'un bâtiment du PEV comme restaurant par un privé, alors que le programme n'a pas de local pour l'archivage de ces documents. Sans oublier l'octroi en juin 2021 à la vice-ministre de la Santé, sur demande du secrétaire général à la Santé, de l'unique Jeep Toyota Land Cruiser affecté aux services généraux du PEV. À la cellule d'appui et de gestion financière, l'équipe de contrôle de l'IGF a révélé l'existence d'importantes avances de fonds chiffrées à plus de 12 millions de dollars non justifiées par les structures bénéficiaires pour le projet paludisme et tuberculose. Il est reproché aussi au Programme national de santé de la reproduction ainsi qu'au Fonds de développement des services de santé pour l'un, l'absence des justificatifs d'utilisation d'un montant de plus de 120 000 dollars américains retirés de Standard Bank de 2016 à 2018 et pour l'autre, de l'existence de plusieurs dépenses non justifiées, mal justifiées ou insuffisantes. Justifié.
La feuille de route du processus électoral a été rendue publique par la CENI le 3 février dernier, vous le savez. En réaction, les organes techniques de la Synco et de l'ECC encouragent le président de la République, le Parlement et le gouvernement à s'acquitter chacun en toute responsabilité de ses obligations afin de permettre à la CENI de mettre en œuvre son agenda électoral. Tout en appréciant le fait que la CENI a mis à la disposition des parties prenantes ses documents internes et dans un communiqué rendu public le vendredi 11 février dernier, il recommande néanmoins à la centrale électorale de travailler dans un commun accord avec ses différents partenaires pour réussir la mise en œuvre de cette feuille de route. On écoute Cyril Ebotoko, chargé du programme éducation civique et électorale des organes techniques de la Synco, joint par Pierre Elamège.
Il faudra que la CENI travaille avec le gouvernement sur un plan de décaissement.
Conformément à la feuille de retraite publiée par la CENI dira à tel moment, je dois avoir tel montant pour réaliser telle activité. Comme ça, ils le font pour toutes les lignes de sa feuille de route, comme s'ils auraient un plan de décaissement et le gouvernement va commencer à donner de l'argent en fonction de ces plans de décaissement pour que la CENI ne soit pas essoufflée certainement pour mener ses actes. La CENI doit approcher le Parlement et avec le Parlement, au regard de sa feuille de route, le Parlement et la CENI devaient avoir un petit planning. Dire par exemple qu'à tel moment, nous avons besoin de telle loi. À tel moment, nous avons besoin de telle autre loi. Comme ça, le Parlement va travailler en fonction de ce planning et la CENI ne pourra pas considérer cela comme une crainte. Il faudra que la CENI travaille avec le gouvernement pour que les mesures de mitigation soient prises à temps et anticipativement pour permettre à cette population de voter cette fois-ci pour éviter ce qui s'est passé la fois passée.
S'agissant des moyens financiers dont la CENI a besoin pour ses opérations, le président de la CENI a reconnu le week-end sur les antennes de notre consoeur Top Congo que jusque-là, son institution n'a reçu aucun centime pour les opérations électorales. La CENI n'a pas non plus une clarté sans équivoque quant au mécanisme et au timing de financement. Le souhait de la CENI, a souligné Denis Kadima, est que des transferts soient faits trimestriellement par le gouvernement, le premier garant du financement de ses opérations. Quant au Parlement, le président de la CENI a insisté sur le fait que son institution n'évolue pas en vase clos. Les discussions sont possibles au besoin, notamment avec la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Rendons-nous au Sud Kivu à présent où plus de 470 enfants ont été recrutés dans les rangs des groupes armés au cours de l'année 2021. Une cinquantaine d'enfants tués et d'autres faits victimes des violences sexuelles. Révélation faite à Bukavu à l'occasion de la commémoration le 12 février de la journée des enfants soldats. À ce jour, aucun enfant soldat n'est enregistré dans les rangs des FRDC. Des détails avec Emmanuel Elamejo Kabiti.
Au total, 472 enfants, dont 82 filles, recrutés ou utilisés par les groupes armés au Sud Kivu en 2021. 50 enfants soldats, dont 12 filles tuées et 169 autres faits victimes de violences sexuelles. C'est ce qui ressort du rapport de monitoring rendu public ce 12 février 2022, Journée mondiale des enfants soldats, Journée de la main rouge. Pour la protection de l'enfance de la MONUSCO, l'UNICEF, les FRDC, le programme PDDR-CS et l'organisation BEVES, le recrutement des enfants est un crime de guerre. Toutefois, ces acteurs notent quelques progrès considérables dans la lutte contre le recrutement des enfants soldats au Sud Kivu. À ce jour, aucun enfant soldat n'est enregistré dans le rang des FRDC. L'armée nationale a même été retirée de la liste noire des Nations Unies des armées qui recrutent et ou utilisent les enfants. Le grand défi reste maintenant la prise en charge de tous les enfants qui sortent des groupes armés afin d'assurer leur réinsertion socio-économique pour les convaincre de ne jamais retourner en brousse. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et puis en Ituri, plus de 300 enfants soldats sont toujours enrôlés dans les différents groupes armés qui sèment terreur et désolation depuis plusieurs années dans cette province, principalement dans les territoires de Djougou, d'Irumu et de Mambasa. C'est le Parlement des enfants de l'Ituri qui l'a dit également samedi devant la presse à Bounia. Selon le président de cette structure de la jeunesse, ces enfants sont soumis à des travaux forcés et contraints parfois à commettre des actes cruels. Cette situation nécessite une intervention urgente des autorités, note le Parlement des enfants de l'Ituri, qui cite notamment l'accélération du programme de désarmement et démobilisation des miliciens déjà en cours, c'est là, dit-il, pour sauver l'avenir de ses enfants. Joseph Kikuni, président du Parlement des enfants de l'Ituri, est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
La femme ne doit pas prendre des armes, la femme doit plutôt prendre les stylos pour partir à l'école et préparer son futur. Il y a plus de 300 enfants qui sont dans des groupes armés à l'heure où je vous parle. Donc ces enfants sont en train de parcourir un grand danger psychique. La façon dont ces enfants mangent, la façon dont ces enfants sont en train de dormir, c'est vraiment des catastrophes. Si même vous voyez ça à l'œil nu, vous aurez pitié de ces enfants. Ils sont comme des espions et c'est eux qui sont des bagagistes. C'est vraiment catastrophique pour ces enfants. Ce qui me fâche, c'est juste qu'ils sont en train de violer les 6 violations graves des droits de l'enfant, dont les droits à l'éducation, ce qui est primordial pour préparer l'avenir, pour s'exprimer même en français comme on le fait, c'est il faut d'abord passer par les bas de l'école. Mais ils passent plutôt par prendre des machettes, des couteaux pour tuer des personnes. Et c'est vraiment un danger. Si nous ne continuons pas de lancer toujours des recommandations auprès des autorités, qu'ils accélèrent avec la mise en application pour que la paix revienne en la province de l'Ituri. Parce que le grand problème, c'est la paix.
De leur côté, le Parlement d'enfants de Boutembo Lubero et le groupe d'encadrement des jeunes Academia ont sensibilisé le week-end des habitants du territoire de Lubero. C'était pour dire non au recrutement des enfants dans les groupes armés. Les participants ont reconnu trois causes principales du recrutement des enfants dans les groupes armés, notamment la pauvreté des parents, l'oisiveté et l'absence de cadres de loisirs ainsi que la manipulation par des leaders politiques. Je l'ai dit dans les titres, le Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé le mardi 8 février l'admission de la RDC dans ce bloc régional, une adhésion sollicitée par le pays depuis 2019. Quelle devra être la suite de la procédure pour l'intégration effective de la RDC dans ce bloc de l'Est? On écoute le professeur Serge Chibango, envoyé spécial du président de la RDC dans ces négociations. Il est joint au téléphone par Emmanuel Elamiche.
C'est que la prochaine étape, elle est en double. La première, il est prévu donc un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté qui devrait se tenir en fait ou être convoqué au courant de ce mois de février. C'est le président exercice de la communauté, le président Uhuru du Kenya, qui devrait convoquer cette réunion extraordinaire des chefs d'État pour pouvoir voilà endosser la décision qui a été prise par toutes les instances de la communauté de l'Afrique de l'Est, confirmant donc l'adhésion de la RDC au sein de cette communauté. Deuxièmement, à partir de la date donc de ce sommet, la RDC aura pratiquement 12 mois pour pouvoir soumettre ou introduire les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la communauté d'Afrique de l'Est. Et bien sûr, vous connaissez la procédure avant que nous puissions ratifier ce traité. Donc, il faudra bien sûr les autorisations nécessaires venant de notre Parlement afin que le gouvernement puisse signer donc ou ratifier donc le traité de la communauté d'Afrique de l'Est.
Terminons la première partie de ce journal avec une note quelque peu tendre. Ce lundi 14 février, c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux, dit-on. Une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, mais elle connaît un réel développement dans le monde. Puis, dans notre pays, la RDC depuis les années 90, la Saint-Valentin, une manière d'exprimer aussi son amour au-delà des paroles. C'est comme ça, en tout cas, que Jean-Louis Balibunga, habitant de Kalemie, résume la fête des amoureux. À 68 ans, il vit depuis 74, date de son mariage avec Joséphine Mangaza, d'abord à Kabambare au Maniema, puis à Kalemie, dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, le foyer de Jean-Louis et Joséphine compte 10 enfants, dont un prêtre. Je vous propose de découvrir ce couple dans ce reportage de François-Xavier Mibé.
Le coup de cœur de Jean-Louis Balibunga sur Joséphine Mangaza est parti du village de Mupapaye en territoire des Kabambare. C'était pendant les grandes vacances de Joséphine Mangaza, elle qui étudiait à Lulingu, 100 km de Shabunda. Nous sommes en province du Maniema. De passage au village plus d'une fois, parce qu'enseignant dans les villages voisins, Jean-Louis Balibunga s'est arrêté, le regard dans les yeux de Joséphine, et tout est parti de là. C'était mon choix. Il y avait beaucoup de filles, mais je ne voulais pas avoir une femme analphabète. Vivre en couple, c'est vivre chaque jour de la vie, la Saint-Valentin au-delà de paroles. C'est que dit Joséphine Mangaza. Je l'aime toujours, quelles que soient les difficultés. Et nous savons nous pardonner mutuellement. La fidélité apporte la paix. Être transparent, éviter les indiscrétions, mais apprendre à régler les problèmes dans le foyer. L'extérieur ne résout jamais les problèmes du foyer. Julien Koulou-Balibunga, l'une des filles du couple, s'est dit aujourd'hui heureuse d'avoir des parents qui s'aiment et qui continuent à perpétuer la Saint-Valentin dans leur vie de chaque jour.
Ça me fait du bien, la fierté aussi. J'ai une très bonne éducation de mes parents. Moi aussi, je vais appliquer ça.
Kalemi, François Djabemi, Radio Okapi.
L'invité. Le Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé le mardi 8 février dernier l'admission de la République démocratique du Congo dans ses blocs régionaux, une adhésion sollicitée par la RDC depuis 2019. Quelle devra être la suite de la procédure pour l'effectivité de cette adhésion? Quels sont les avantages pour la RDC d'adhérer à cette communauté et ce que les autres membres peuvent attendre de la RDC? Pour en parler, nous recevons le professeur Serge Chibango, mandataire spécial du président de la RDC dans ses négociations. Il s'entretient avec Pierrot Elamiche.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est a approuvé le mardi 8 février l'admission de la République démocratique du Congo dans ses blocs régionaux. L'admission est obtenue. Quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, elle est en double. La première, il est prévu donc un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté qui devrait se tenir en fait ou être convoqué au courant de ce mois de février. C'est le président exercice de la communauté, le président Uhuru du Kenya, qui devrait convoquer cette réunion extraordinaire des chefs d'État pour pouvoir endosser la décision qui a été prise par toutes les instances de la communauté de l'Afrique de l'Est, confirmant donc l'adhésion de la RDC au sein de cette communauté. Deuxièmement, à partir de la date donc de ce sommet, la RDC aura pratiquement 12 mois pour pouvoir soumettre les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la communauté d'Afrique de l'Est. Et bien sûr, vous connaissez la procédure avant que nous puissions ratifier ce traité. Donc, il faudra bien sûr les autorisations nécessaires venant de notre Parlement afin que le gouvernement puisse signer donc ou ratifier donc le traité de la communauté d'Afrique de l'Est.
On sait que la RDC fait déjà partie de plusieurs organisations régionales. Bientôt, il fera partie de l'EAC. Quel est l'intérêt pour la RDC à rejoindre ces blocs régionaux de l'Est?
Il faudrait que vous sachiez que c'est l'un des blocs commerciaux et économiques les plus intégrés du continent. Donc, son objectif, c'est donc de faire bénéficier nos populations du Nord. Je pense notamment à l'Ituri, le Bas-Ouélé, l'ex-province orientale, nos populations de l'Est avec le Grand Kivu, même le Sud, avec des provinces comme celle du Tanganyika. Donc, il s'agit de leur faire bénéficier de tous les multiples avantages liés à une telle adhésion. Je pense, par exemple, à la libre circulation des biens et des personnes, avec notamment l'obtention des passeports de la communauté d'Afrique de l'Est, ce qui permettrait surtout aux hommes d'affaires et à nos commerçants de pouvoir circuler en même temps que leurs biens au sein même de la sous-région. C'est déjà un des avantages précieux pour la population congolaise que nous puissions adhérer à cela. Il y a aussi, par exemple, l'intégration des infrastructures. La communauté de l'Afrique de l'Est a une banque de développement de l'Afrique de l'Est qui est là pour financer les projets d'infrastructures d'intégration comme des routes, des rails ou encore même transport lacustre. Et nous avons trois lacs pratiquement qui nous lient à certains pays de la communauté. Je pense au lac Édouard, le lac Albert, le lac Kivu, il y a le Tanganyika également. Donc ça fait quatre lacs au moins que nous avons, dont nous pouvons bénéficier justement de ce modèle qu'ils ont déjà en application avec le lac Victoria.
Et selon vous, qu'est-ce que les autres pays membres peuvent attendre de l'intégration de la RDC?
Comme vous le savez, premièrement, la RDC, c'est ce grand pays avec 90 millions d'habitants, ce qui sous-entend un marché de 90 millions de consommateurs pour les autres pays. Nous sommes également ce pays riche que vous connaissez en ressources naturelles et nous possédons la deuxième plus grande forêt tropicale. Tout ça, nous l'emmenons au service de la communauté. Nous sommes également une source, comme vous le savez, de matières premières. Je parle du cacao, je parle du café et même bien sûr des minerais, ce qui permettrait à ceux du secteur manufacturier qui font partie de ces pays de pouvoir en fait importer depuis la RDC à moindre coût et aussi exporter vers la RDC toujours à moindre coût.
Et la dernière question pour terminer notre entretien. Comment la RDC pourra-t-elle profiter des valeurs partagées au sein de cette communauté? Ici, je parle des valeurs culturelles, économiques, politiques et sécuritaires.
Je pense qu'il y a d'abord une information importante à vous donner. Au niveau linguistique, par exemple, les langues officielles de la communauté d'Afrique de l'Est sont l'anglais et le swahili. Mais déjà, il y a plus d'une année, avec la demande d'adhésion de la RDC au sein de la communauté d'Afrique de l'Est a approuvé la langue française comme étant la troisième langue officielle. Mais la RDC, c'est ce grand pays francophone qui a beaucoup à apporter aux autres pays de par notre expertise, notre expérience et même tout ce qui est au niveau donc de la langue de base qui est le français que nous pourrons partager avec tous nos amis ou de nos pays frères et membres de cette communauté. Du point de vue sécuritaire, il existe notamment un protocole de sécurité collective de la communauté d'Afrique de l'Est et la RDC pourrait en bénéficier, particulièrement avec probablement le concours de certains pays membres qui pourrait toujours nous prêter main forte dans la lutte contre les groupes armés locaux et étrangers qui sévissent surtout à l'est du pays. Et nous avons l'éducation avec les échanges d'élèves, d'étudiants, les échanges entre professeurs, des publications communes au niveau de l'emploi aussi. C'est que les Congolais peuvent toujours appliquer pour l'emploi, je ne sais pas, au Kenya ou en Tanzanie, comme s'ils faisaient partie, ils étaient originaires de ces pays-là. Tout ça, ça fait partie des avantages dont on pourrait bénéficier.
Professeur Serge Tshibangu, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.